Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Roland Gérard au micro de Nouvelle Conscience. Roland Gérard est animateur nature depuis plus de 30 ans. Cofondateur du réseau École et Nature au début des années 80, il a également cofondé le collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable qui fut déterminant dans l'organisation des Assises nationales de l'éducation à l'environnement. Ces associations ont été les premières à ouvrir le dialogue entre les acteurs des secteurs privés et publics autour des thématiques environnementales en éducation. Dans cet épisode, Roland nous transmet son amour de la nature, de la transmission et de la poésie vers une volonté d'émerveillement des enfants à la sensation, puis à la protection de la nature. C'est sur ces mots d'Einstein qui résument parfaitement la posture de Roland que je terminerai ma présentation. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Roland.
Bonjour.
Comment vas-tu en ce mercredi ?
Écoute, ça va bien. Il fait un peu gris aujourd'hui sur les montagnes pyrénéennes, mais ça va. On a eu quelques jours de beau temps. J'ai beaucoup marché récemment. Et voilà, donc ça va.
Super, ouais. Donc ça, bon, ça tombe bien alors que tu t'enfermes aujourd'hui pour le podcast. C'est un temps qui se prête plutôt à ça qu'à faire des balades.
Exactement.
Avec la grisaille. D'accord. Super, bon ben, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast Nouvelle Conscience. Merci beaucoup d'être présent. On va commencer par une question assez généraliste qui va nous permettre en fait, de rentrer dans les détails par la suite. La première question que je souhaite te poser, c'est sur la notion de révolution verte que tu as abordée dans certains de tes écrits, la révolution verte de l'éducation. Donc je voulais voir avec toi si donc de quoi il s'agissait d'une part quand tu parles de révolution verte de l'éducation et ensuite si l'enseignement français était prêt pour ça, pour cette révolution de l'éducation.
Révolution verte parce que disons que la question de l'écologie aujourd'hui elle devient vraiment centrale et on sent bien, on a une proportion de plus en plus grande de la population à sentir que nous sommes en devoir d'opérer un tournant. Et quand je dis nous, c'est, je veux dire, l'espèce humaine. Et c'est un événement qui est encore plus important qu'un événement historique parce que on peut qualifier cet événement d'anthropologique carrément parce que il y a rien de plus important ni de plus puissant qui est arrivé depuis la naissance de l'humanité sur Terre, parce qu'on risque à avoir modifié les conditions du milieu, on risque de mettre en question l'existence même de l'espèce humaine, quoi. Donc on est à un moment extrêmement fort. La formule consacrée, c'est si on continue comme ça, on va dans le mur. Hein, on l'entend de plus en plus régulièrement. Le club de Rome, c'était au début des années 70. Le disait, maintenant ce sont les Nations Unies qui le répètent régulièrement, de plus en plus souvent. On a vu le dernier rapport du GIEC, et maintenant toutes les personnes de bon sens en sont là. Donc si on continue à avoir ce mode de développement, ce type d'évolution, l'espèce humaine, eh bien on compromet tout simplement notre existence même. Et aujourd'hui, on a de très importantes proportions de jeunes qui sont touchés par l'éco-anxiété. On parle de la moitié des jeunes et même des trois quarts des jeunes qui développeraient en eux une inquiétude pour l'avenir du fait de cette de ce réchauffement climatique et puis de la perte de biodiversité, hein, sixième extinction de masse du vivant, hein, c'est quelque chose d'énorme, quoi.
Oui.
Donc la révolution là, c'est d'arrêter la séparation entre nature et culture. Parce que cette séparation, ça nous mène à ce désastre, hein. C'est de reconnaître l'interdépendance comme étant un élément clé, presque un dogme. C'est-à-dire que l'interdépendance, ben, savoir que nous, les humains, on est dans l'interdépendance avec tout le vivant, avec toutes les autres bêtes, avec tous les éléments du vivant. Et il faudrait qu'on comprenne que cette interdépendance, elle est un élément clé, c'est-à-dire que l'homme sort de sa position centrale ou supérieure et entre vraiment dans le flot du vivant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture aujourd'hui. Et il faudrait aussi poser la diversité comme une nécessité vitale. On voit bien que ce sont les systèmes simplifiés qui sont, les plus fragiles et les moins productifs, en fait, s'ils ne sont pas soutenus par de la chimie, entre autres. Donc, il ne faut pas oublier que quand on parle de diversité, eh bien, il faut imaginer tout de suite monoculture, quoi, parce que c'est le contraire de la diversité, c'est ça, c'est la monoculture. Et c'est ça, c'est un artifice. Donc, il faut maintenant qu'on arrive à mettre la diversité comme étant un atout, en fait, pour la vie. Bon, on est dans la question du court terme et du long terme.
D'accord.
Voilà, il faut maintenant passer sur une économie, sur une vision du monde qui met en avant le long terme. Et peut-être que cet individualisme qui est de plus en plus important dans notre société, eh bien, peut-être qu'il faut le remettre en question, parce que c'est peut-être lui qui nous amène aujourd'hui à ne pas considérer les générations futures. Et c'est la culture du jetable. Hein. On a même notre relation aux objets aujourd'hui. Enfin, je vois que moi, je suis attaché à mon bâton de marche, par exemple. Moi, je suis attaché à mes... Ouais, j'en ai deux ou trois ou quatre. Voilà, je suis attaché à mes bâtons de marche et j'aime bien les retrouver. J'ai mes compagnons de balade. Et je trouve que cette façon qu'on a de prendre un objet, de l'utiliser un peu, et après négligemment de le jeter, je trouve que ça colle pas avec ce qu'on est au fond, quoi. Donc un petit peu aussi révolution, parce que ça m'avait questionné quand j'étais adolescent, ou j'avais ton âge, même avant. Je me disais, mais comment ça se fait qu'un génie comme Linné, qu'a créé la classification, hein, des espèces au XVIIIe siècle, comment ça se fait qu'il a qualifié les humains de sapiens, quoi? Parce que sapiens, c'est un adjectif latin, en fait, hein, qui signifie intelligent, sage, raisonnable, prudent.
Oui,
c'est clair. Ça, sapiens. Et donc, moi, j'y arrivais pas, parce que je me disais, mais c'est le contraire, je ne comprends pas du tout. Et en fait, je me suis dit, il y a à peu près une dizaine d'années, je me disais, ah, ben, ça y est, j'ai compris. En fait, peut-être qu'il voulait dire que soit on devient ça, soit on devient intelligent, sage, raisonnable, prudent, soit on disparaît, tout simplement.
Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être que ce serait une intention, un but vers lequel tendre. C'est pas forcément ce qu'on est, mais on peut le devenir, sapiens, en fait. Et ça demande une vie. Et peut-être que, mais en fait, tous les animaux sont sapiens aussi, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça pose plein de questions. Enfin, le vivant est sapiens, finalement. C'est pas que l'homo. Ouais,
j'aimais bien le message de Linné, en fait. Peut-être c'est pas ça, hein, mais après tout, c'est possible de se dire que il était tellement intelligent, il avait vraiment compris que si les humains continuaient à se comporter comme ça, ils risquaient d'avoir de graves ennuis. Et ce qu'on a aujourd'hui.
D'accord.
Donc l'idée, c'est que cette éducation nouvelle, en fait, elle nous emmène vers la sagesse. On révise les bases même de notre culture humaine, quoi. Ou alors on disparaît.
D'accord.
En fait, une culture qui refuse la domination des humains sur les non-humains, hein, Et refuse aussi la domination de certains humains sur d'autres. Voilà, en fait, c'est en finir avec la domination, peut-être,
oui.
Tout simplement.
Donc, du coup, ces valeurs de diversité, de long terme, tu parles aussi beaucoup de territorialité, d'une école qui vraiment est en lien avec son territoire. Est-ce que donc, ce sont des valeurs qu'on pourrait réintégrer dans l'éducation, justement, pour permettre cette révolution verte et permettre d'aller vers plus de sapiens, de sagesse?
Eh bien, certainement. C'est déjà en marche, hein, parce que quand on dit transition écologique, elle est partout, la transition écologique. Elle est trop souvent à très petite dose. Mais quand même, tous les systèmes, que ce soit notre économie personnelle, nos foyers, que ce soit nos quartiers, nos villes, nos départements, les régions, notre pays, maintenant, tous les systèmes, nos entreprises, tous les systèmes aujourd'hui se posent la question d'une transition, d'un changement. Et ben l'école, c'est sûr que l'école, elle doit être au tout premier plan. Tout à l'heure, je parlais de domination et du fait qu'on devait se libérer de ces dominations, parce que devenir responsable, c'est justement ne pas avoir besoin d'une domination pour savoir se conduire. Ça signifie que le premier sujet de l'éducation, c'est bien l'émancipation. L'émancipation, c'est ça, je m'émancipe, c'est-à-dire que je deviens autonome, c'est-à-dire que je deviens apte à me donner mes propres règles et à pouvoir me passer d'un pouvoir tutélaire, en fait, qui serait censé me dire ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est un des éléments clés qui est historique dans l'éducation, hein, parce qu'on met souvent en avant la question de l'éducation et de l'émancipation dans l'éducation. Mm-hmm. Mais il y a l'autre élément clé, c'est notre lien au vivant. C'est comment on s'y prend pour partout, dans tous les territoires, là où vivent les enfants en particulier, l'éducation s'adresse en premier aux enfants. Les enfants puissent connaître des bonnes expériences de nature pour pouvoir tisser ces liens avec le vivant. Et ces expériences de nature, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous leur offrir cette occasion-là aux enfants. Parce qu'on peut tous, même si on s'y connaît pas trop, on n'a pas besoin de connaître le nom des oiseaux pour aider un enfant à rencontrer les oiseaux. Il suffit de désigner un oiseau et de dire « Regarde comme il est beau
ouais, ».
Et si on ne le sent pas nous-mêmes beau, eh bien, il faut peut-être qu'on fasse un chemin pour soi-même avant. Mais l'enfant peut faire ses propres expériences. Ce qu'il faut donc, c'est l'amener dans des endroits qui vont lui permettre de faire des rencontres, d'être dans l'émerveillement, voilà, et d'être dans le jeu libre. Là, on découvre aujourd'hui les grands bienfaits du jeu libre. Laisser les enfants en forêt pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils font leur cabane, ils grimpent dans les arbres. En fait, on va te dire, dans l'ancienne culture, on dirait qu'ils perdent leur temps et ils s'amusent,
oui.
C'est la récré. Et en fait, on sait maintenant que c'est une nécessité vitale pour les enfants.
Oui.
C'est une nécessité pour être bien.
Oui.
Voilà. Donc là, c'est une grande révision culturelle de tout le monde. Hein. Les enfants ont besoin de la forêt parce que l'espèce humaine telle qu'on la connaît, elle a plus de 200 000 ans, et puis que pendant ces 200 000 ans, ça a été ça la vie des enfants.
Oui.
c'était rien d'autre que ça, quoi.
Oui, le jeu, oui. Dans le jardin, ouais, dans les forêts avoisinantes.
Oui.
Ouais, et même pour les adultes, hein. Enfin, je pense que les effets de la nature sur l'enfant sont aussi importants sur l'enfant que sur l'adulte. C'est sur l'homme en général, sur l'humain, je pense que la nature est nécessaire.
Mais oui, nous sommes de la nature. Ça, c'est vraiment une formule qui est importante à saisir. Et parce qu'on a été longtemps dans la vision qu'on était dans la nature. Non, on est de la nature.
Oui.
Moi, j'ai bien aimé ce slogan pendant la COP à Paris où les... les activistes avaient sorti ce slogan, je suis peut-être plus ancien, mais moi je l'ai découvert à cette occasion-là, mm-hmm. c'était « On défend pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ».
Ah, c'est beau, oui.
Voilà, tu vois, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on a, on intègre soi-même un ensemble d'éléments. On ne se met pas au regard de la nature, mais on se sent appartenir à la nature.
Oui.
Et ça, c'est vraiment important.
Quoi, oui. Et ça, tu soulignes aussi quelque chose de fondamental, je trouve, c'est passer de la simple connaissance à une expérience de nature. Parce que donc voilà, nous dans notre système, on va connaître, on va emmagasiner du coup un savoir. Mais comme tu dis, comme nous sommes de la nature, nous avons besoin de nature parce que ça, elle fait partie de nous. Et d'après ce que j'entends, ce que tu proposes, c'est l'importance voilà de l'expérience et notamment de la corporalité pour comprendre cette nature, la trouver belle, s'émerveiller.
Oui, et c'est-à-dire recevoir les choses. Pas seulement avec son cerveau.
Mmh.
Cette éducation, maintenant, elle s'adresse au corps, elle s'adresse au cœur, elle s'adresse à l'esprit, elle s'adresse au cerveau. Elle s'adresse à quatre dimensions de l'être humain, en fait. Hein, la dimension physique, on vit quelque chose d'autant plus intensément parce qu'on est là physiquement au contact de la rivière, au contact de la forêt, au contact de la nuit, au contact de la pluie.
Oui.
Et donc ça, on le vit intensément parce qu'on éprouve les choses. C'est ce mot-là, hein, tu sais, mm-hmm. éprouver les choses. On éprouve les choses. Pour avoir la connaissance de quelque chose, il faut l'éprouver, quoi.
Oui.
Et c'est ça l'expérience de terrain, c'est éprouver les choses. C'est pour ça que une éducation à la nature, à l'environnement sur un écran, c'est pas trop envisageable, quoi. Ça marche pas trop. Et donc éprouver les choses physiquement. Ensuite, eh bien, tu reçois les choses aussi de manière affective. C'est très important la dimension du cœur et de sentir si Par la voie de l'émerveillement, par la voie de la beauté, par tous ces éléments-là, de recevoir les choses dans son affectivité et d'accueillir ça, sa dimension sensible, sa dimension, la dimension du cœur, on peut pas dire mieux, quoi. Et ensuite, la dimension du cerveau, elle est là parce que on aime comprendre les choses, on aime avoir des éléments, réfléchir. Et puis après, il y a aussi la dimension de l'esprit parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, les humains, à un moment donné, c'est à quoi ça sert, mais pourquoi, quel but, quel sens ça a. Donc ça, c'est bien la dimension de la spiritualité.
Oui.
Donc on a bien la dimension physique, affective, cognitive et la dimension spirituelle.
Oui.
Et donc là, on arrive à une éducation beaucoup plus complète. Aujourd'hui, l'école est souvent réduite à la dimension du cerveau, quoi, la dimension de cognitive, d'amasser des éléments de connaissances dans tous les champs possibles, mais la dimension du cœur, la dimension du corps, la dimension de l'esprit est souvent négligée, quoi.
Oui. Mmh. Et toi, donc, en tant qu'ancien, donc, co-créateur et ancien co-président du réseau École et Nature, donc, qui a changé de nom, maintenant c'est le FREN, et également du réseau Éducation Environnement, donc ça, tu l'as créé, ce réseau, en 1983, donc ça remonte. Est-ce que, en tant que justement que co-directeur de ces différents réseaux, tu as pu dialoguer avec les institutions pour leur proposer cette vision de l'éducation à l'environnement, parce que vous avez notamment avancé ensemble, il me semble, avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez dialogué. Et quelles ont été leurs réponses et comment ils ont réagi face à vos propositions, hein, qui sont novatrices?
Toutes ces organisations, elles se sont co-construites. On a été... j'étais impliqué fortement. Passionné par cet engagement très fort pour la défense de la nature, pour le aussi le respect de l'enfance, c'est des choses auxquelles je tiens énormément. Mais à chaque fois, on a été nombreux à créer le réseau École et Nature à partir de 83, ouais, avec les rencontres nationales. Et puis après, le collectif français pour l'éducation à l'environnement, faire un développement durable, là qui, lui, réunissait à un moment donné... moi, une trentaine ou même un peu plus d'organisations de la société civile, hein, des associations et des syndicats qui s'appliquaient dans l'éducation et qui voulaient développer un peu plus cette dimension écologique. Et après, dans un troisième temps, grâce aux assises nationales qu'on a faites sur l'éducation à l'environnement, on a créé l'espace national de concertation. Alors dans l'espace national de concertation, c'était pas seulement la société civile qui était concernée, impliquée, mais c'était aussi le monde de l'entreprise et les autorités publiques, quoi. Autorités publiques nationales, les ministères, et autorités publiques locales avec des associations d'élus de régionaux ou départementaux ou des villes, et aussi la dimension de l'entreprise. Donc on avait comme ça... toute la société française qui pouvait intervenir, s'impliquer. Hélas, cet espace national de concertation a disparu. Le soutien ministériel, la volonté ministérielle de le faire exister a duré à peine 10 ans. Hein. C'est triste comme tout, hein, mais c'était une réalité. C'est contraire à toutes les préconisations internationales, hein, préconisations de l'UNESCO en particulier. Et nos assises étaient des vraies réussites, hein, puisque là, les dernières assises, il y avait eu 95 circonstances locales ou régionales qui avaient préparé ces assises. Il y avait 1200 participants, ça durait 3 jours. Wow. Et il y avait la ministre Delphine Bateau qui était venue. Et ça, c'était en 2013 à Lyon, à Villeurbanne. Et on avait une forte mobilisation, sauf que, eh bien, cet effort à société civile l'a fait 3 fois, hein, puisqu'on l'a fait à Lille en 2000, là on était 1100, très mobilisés, à Caen en 2009, à chaque fois on l'a fait sous le patronage du président de la République. On était vraiment, on peut pas plus consensuel, être favorable au dialogue. Mais je ne sais pas comment répondre à ta question sans utiliser le mot mépris, mensonge.
Oh là là, ouais.
Voilà, quoi, je me reproche presque aujourd'hui d'avoir été naïf comme un enfant, tu vois, même innocent, tu vois. Parce qu'il y a une date importante dans mon parcours personnel, en tout cas, c'est 92, hein, le sommet de Rio. Je me rappelle de cette formule, jamais... on a réuni autant de chefs d'État de toute l'histoire de l'humanité. Mmh. Et je me disais, ah ça y est, voilà, ils ont compris, en 92, ils ont compris que la question environnementale était extrêmement importante et qu'ils allaient se mettre d'accord pour... Et là, c'était l'agenda 21 qui a été créé, etc. Mmh. Sauf que les engagements n'ont pas été suivis. Et on retrouve la même chose en 2015 avec les accords de Paris sur le climat. Oui. Les accords ne sont pas suivis. Donc, comment dire autrement que de parler de mensonges ? C'est des mensonges. Ils disent qu'ils vont faire des choses, ils ne les font pas. Je suis un peu triste, ouais, de voir que c'est ça quand même. Hein. Il y a des rapports de force très, 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 très puissants dans la société. Et toutes les personnes qui veulent que la nature soit respectée, que les espèces vivantes puissent s'épanouir, que les enfants soient aussi écoutés dans leur singularité, qu'ils aient droit à leurs différences, qu'ils soient accompagnés plus que éduqués. Oui. Ces idées-là, elles sont rejetées par les gens qui détiennent les pouvoirs aujourd'hui, hein, économiques, politiques.
D'accord.
Voilà.
Oui, ouais, je vois.
C'est pas...
Oui. Est-ce que tu penses que le contexte actuel, avec quand même une accélération des symptômes, mais des conséquences du réchauffement climatique, notamment en Europe, avant, on avait l'impression que c'était éloigné de nous, que les dirigeants pouvaient peut-être pas le nier, mais en tout cas se méprendre et ne pas le prendre en compte dans leur politique et en tout cas dans les médias. Est-ce que tu penses que justement cette accélération et le fait fait qu'on soit nous-mêmes touchés maintenant en Europe, ça va pouvoir justement recréer cet élan autour des enjeux de la protection de la nature et notamment en coopération avec la société civile et les institutions publiques et privées.
Oui, c'est inéluctable. Je pense que c'est inéluctable.
Oui.
Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, l'emballement climatique est tel, là, aujourd'hui, qu'il y a des souffrances qui vont apparaître, collectives, individuelles, et que ça va vraiment bouger des lignes, quoi.
Oui.
Je pense que ça va vraiment bouger des lignes. Donc, il faut continuer de se préparer, il faut continuer à chaque fois que c'est possible, d'entrer dans le dialogue, voilà, et essayer d'oublier le rapport de force pour la générosité, l'ouverture, l'écoute, l'engagement, l'engagement bénévole. C'est tellement grave aujourd'hui, cette situation climatique, et puis ce désordre social aussi, hein, parce que c'est du même ordre. Hein, il y a beaucoup trop de gens qui sont en souffrance, en pauvreté, et quand on parle d'éducation à la nature, à l'environnement... On parle pas que l'éducation des Français, quoi. Hein, c'est l'éducation des humains. Hein,
oui.
Et donc là, il faut qu'on oublie un peu ces frontières et qu'on fasse vraiment un effort collectif, les humains, pour faire face à cette crise, quoi, majeure, quoi.
Oui.
Des fois, je me dis que c'est quand même aussi une chance de la voir venir, même si les réactions sont beaucoup trop lentes. Et
oui.
Il faudrait tous se mobiliser en urgence dès maintenant, bien sûr, c'est évident. Mais c'est une chance quand même parce que ça peut nous remettre les humains dans un chemin beaucoup plus intéressant que celui qu'on connaît aujourd'hui. Quand tu vois le tourisme spatial, quand tu vois des Jeux Olympiques où on n'a que de la neige artificielle, qu'on aura des matchs de foot pour les Coupes du Monde dans des terrains de sport réfrigérés, c'est hallucinant le décalage avec ce qu'il faudrait faire.
C'est clair.
Donc à un moment donné, ça va apparaître au plus grand nombre de gens. Hein, et donc il faut continuer, nous, on doit continuer à élaborer des façons de faire, l'éducation, à apprendre à bosser ensemble, à apprendre à faire ensemble. Ça, c'est vraiment essentiel.
Oui. Ouais. Est-ce que c'est en ce sens-là que tu me disais hors antenne que l'éducation est politique ? Tu en parlais aussi au colloque organisé à Montpellier en novembre dernier. Voilà, le sens politique de l'éducation, le fait de devoir s'unir avec le monde extra-éducatif, avec toutes les forces, si je peux dire, en tout cas de la société. Quel est le sens politique de l'éducation, selon toi ?
Des fois, je me dis que les éducateurs, ils font pas de la politique politicienne, ils s'occupent pas du pouvoir sur une société. C'est pas notre vocation de prendre le pouvoir sur une société, d'avoir le pouvoir sur une société. C'est pas du tout notre vocation. Elle est exactement à l'opposé, puisque c'est de donner de la liberté aux enfants, c'est de donner le maximum de liberté, de donner le maximum d'esprit critique, de les laisser s'exprimer, d'exprimer leur singularité et de leur donner tous les moyens pour avoir une vision la plus claire, la plus lucide possible d'une situation, pour qu'eux-mêmes puissent faire ce qu'ils ont à faire, prendre leurs propres décisions et influer dans un sens ou l'autre. Et surtout, pour influer dans un sens ou l'autre, avoir appris à faire ensemble et pas être dans l'individualisme forcené, mais dans une capacité d'exprimer sa citoyenneté, d'exprimer sa responsabilité citoyenne, dans l'idée que on a tous le même destin, les humains, hein, on est sur la même planète, c'est notre planète. L'éducation est politique en ce sens où les éducateurs, eux, ils veulent une société meilleure, hein, ils veulent une société meilleure et ils vont aller vers ça, mais c'est pas du tout dans l'idée de prendre le pouvoir.
D'accord. Oui, voilà, donc c'est l'idée d'un projet commun tendant vers des valeurs bonnes pour le vivant en général et une mobilisation collective dans un sens positif et pas voilà une idée d'une politique partisane. Oui, hein, le sens noble du politique.
Exactement. La politique avec un grand P, comme on dit.
Oui, c'est ça. Le même P que la paix, tu vois. Enfin, c'est P majuscule, la solidarité, la paix, enfin, de belles valeurs. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai.
C'est comme l'acte d'achat, tu vois, l'acte d'achat, il est politique aussi. Acheter quelque chose, eh bien, ça a du sens politique.
Oui, et, bien sûr.
Et donc, on peut à chaque fois se questionner.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, ce qui compte dans la politique, c'est beaucoup le récit, quoi. Il y a des leaders, c'est clair, il y a des leaders. Bon, on les voit dans les chaînes de télé ou partout à la radio, il y a des leaders, mais devant le leader, devant eux, il y a le rêve de la communauté. Mm-hmm. Avant la communauté humaine, enfin nous françaises, la communauté, elle rêvait de bord de mer en été, elle rêvait de faire du ski, d'avoir une résidence secondaire, d'aller en voyage en Égypte. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on peut espérer que on rêve un peu d'autre chose, quoi.
Ouais.
Quoi, et on rêve peut-être maintenant de renouer avec le vivant. Et c'est là où on est à un moment charnière. On va quitter ces anciens rêves pour un nouveau récit qui prend corps, quoi.
Oui.
On rêve d'accord avec le monde, de compréhension avec les non-humains. On intègre l'idée d'interdépendance. On comprend que la diversité c'est une richesse et pas et pas un problème, quoi. Tu vois.
Oui. Et toi, en tant qu'animateur nature, donc comment tu fais pour susciter l'émerveillement chez les enfants? Et je pense notamment, et aussi chez les adultes, bien sûr, mais je pense notamment à ceux qui vivent en ville. Parce que tu parlais tout à l'heure d'être en lien avec cette nature, d'être à l'intérieur, de la sentir. Mais quand on est dans un environnement urbanisé, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposais comme atelier pour justement faire renouer l'individu à une nature qui est tellement absente de son milieu?
Oui, elle est plus présente qu'on croit souvent. Ça dépend du regard qu'on pose sur les choses. C'est bien clair que c'est beaucoup plus difficile en ville. Hein. C'est beaucoup plus difficile en ville. Mais ce n'est pas du tout impossible.
Et,
il faut bien se dire que les petits humains, ils adorent grimper dans les arbres, ils sont bien quand ils sentent l'odeur de la boue, quand ils jouent avec les joncs, quand ils vont dans la forêt la nuit, ils adorent explorer, et entendre le chant de la chouette-culotte à 20 mètres et caresser la mousse, ça, ils adorent faire ça. Et dans ces moments-là, ils tissent des liens. Et donc, l'idée, c'est que avant, on faisait des classes vertes, tu vois, par exemple. Mm-hmm. On faisait des classes vertes, on faisait 500 km en bus et on se retrouvait à la mer ou à la campagne ou à la montagne. Et les gamins passaient 3 semaines. Hein, au début de ma carrière d'animateur nature, c'était ça, hein, c'était 3 semaines en classe transplantée qu'on appelait à l'époque. Et donc là, l'idée aujourd'hui, tu vois, ce serait de faire comme on a fait les piscines au début à la fin du 19e, hein, comme on a fait les bibliothèques municipales, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens savaient lire, mais ils n'avaient pas d'argent pour acheter des livres. Mm-hmm. Et donc, on leur a fait des bibliothèques municipales. Mm-hmm. Bon, maintenant, c'est les médiathèques, tout ça, c'est très, très nécessaire, très utile, c'est complètement normal dans le paysage.
Oui.
Mais il y a 150 ans, ça n'existait pratiquement pas. Donc l'idée, là, maintenant, ce serait de... Ce qu'on a besoin, c'est une alphabétisation écologique. Donc, mm-hmm. c'est de rencontrer le vivant dans sa diversité. Et donc, l'idée, ce serait qu'aujourd'hui, d'un périmètre assez proche, on ait des forêts éducatives, tu vois. Qu'on ait des lieux de nature qui soient dédiés à l'éducation. Qu'à ça.
Oui.
Qui soit dédié à l'éducation. Et moi, j'imagine bien, tu vois, 2-3 hectares, il ne faut pas plus, hein, 2-3 hectares avec quelqu'un qui a un peu sécurisé les lieux, parce que ça va de soi quand tu fais l'éducation. Des fois, dans la nature, il y a des pièges, parce que bon, on peut se faire mal dans tel endroit, ou avec tel arbre qui est prêt à tomber, éventuellement au premier coup de vent. En sécurisant un tout petit peu le lieu, et après, laisser grande liberté aux enfants, faciliter les choses pour les enseignants. S'il y a 10 minutes de bus à faire, eh bien, on fait 10 minutes de bus, parce que c'est prioritaire. Tu vois,
parce que
c'est prioritaire. Et que maintenant, on dit c'est prioritaire de passer c'est 2-3 heures par semaine minimum en pleine nature pour les enfants. Mm-hmm. Et je pense à cette vidéo qui a été faite par le Grain Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une vidéo sur l'école en forêt qui est pratiquée par des écoles publiques. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'éducation nationale du coup qui s'est mouillée. Hein, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et elle doit être à 35 000 vues ou plus maintenant aujourd'hui. Et donc... Elle montre comment c'est à la portée des enseignants qui vraiment se mobilisent, oui. ont envie. Et là, je pense que ce désir, il est de plus en plus grand. Et ce qu'il faut donner, c'est la possibilité de trouver des espaces dédiés, des espaces qui soient adaptés à cette nouvelle volonté sociale de créer ces liens entre la nature et les enfants, tu vois.
Oui, d'accord. Donc il faut aussi que voilà, il y ait une volonté enseignante et peut-être que si cette volonté dépasse l'immobilisme de l'éducation nationale en matière d'environnement, ça, en tout cas de sensibilisation à la nature, ça va pouvoir peut-être faire le contrepoids et entraîner des changements si ça vient de l'intérieur peut-être.
Oui, au moins localement, au moins chez soi, tu vois.
Ouais.
Tu vois les cantines bio, hein, je fais le parallèle avec les cantines bio. Hein,
oui.
Une cantine bio, quelque part, dans un village ou dans une petite ville ou dans une grande ville, c'est toujours quelques parents qui s'inquiètent de ce que mangent les enfants à la cantine, quelques directeurs d'école ou d'enseignants qui disent quand même on pourrait faire quelque chose, un élu de la ville qui dit bah oui, je comprends, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et puis petit à petit, il y a un dialogue qui se passe entre la collectivité, des parents, des enseignants, et petit à petit, avec la forte volonté de compréhension mutuelle. Donc c'est intéressant de voir qu'avec des fois peu d'efforts, hein, un abri à chauves-souris, un hôtel insecte, une mare, on arrive à faire revenir de la faune sauvage.
Oui, mais en tout cas, c'est fondamental, là, ce que tu dis, tu donnes vraiment des ressources pour ceux et celles qui voudraient se lancer, mais qui ne sauraient pas forcément comment faire. Donc, d'après ce que tu proposes, voilà, c'est se lier avec les autres acteurs du territoire pour créer des projets communs et déjà refaire vivre une démocratie plus verte, plus solidaire, à l'échelle locale. Et peut-être qu'après, si on construit des îlots comme ça de nature et d'interdépendance, ça pourra créer un pays qui fait une norme, finalement, hein, peut-être. Hein, comme tu dis, un bon exemple, hein, là, les bibliothèques et tout, parce qu'on croit qu'elles ont toujours été là, mais non, il faut commencer petit avant que ça devienne...
Exactement.
Ouais.
Et faire confiance aux personnes qui innovent, quoi. Leur faire confiance, quoi. Pas les regarder se démener toutes seules.
Oui.
Non, les soutenir, les aider. Peut-être que tu ne le sais pas, il y aura à Poitiers en juin 2023, il y aura les rencontres internationales de la classe dehors, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien parce que tous les gens qui sont aujourd'hui sur leur terrain, dans leur territoire, qui sont en train de, envers et contre tout, sortir les enfants dehors pour qu'ils aient des expériences de nature, eh bien, tous ces gens-là vont pouvoir, exprimer leur... témoigner de leur action, dire ce qu'ils attendent, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que ça c'est le Covid hein, qui a produit ça. Maintenant la classe dehors, ça commence à faire sens, hein, chez plus en plus de gens. Et puis la ville de Poitiers a été formidable parce que elle est vraiment moteur là sur ce sujet aussi. Et
d'accord.
Donc elle va accueillir cette grande ce grand moment international, tu vois, de la classe dehors, je suis assez enthousiaste.
Ouais, moi, j'imagine que tu y seras, en tout cas. Je crois que c'est réservé dans ton agenda. Bah, j'essaierai d'y aller aussi, hein, vraiment. Ce serait merveilleux de pouvoir participer à un événement comme ça. Bon, ben merci en tout cas Roland pour toutes tes réponses. J'aurais vraiment aimé qu'on aille encore plus en profondeur sur ces sujets. En tout cas, on peut continuer à suivre tes réflexions donc sur Internet. Tu écris beaucoup donc sur le site Agoravox. C'est un site donc d'écriture libre. Et ensuite, on peut te retrouver sur YouTube. Il y a beaucoup de tes interventions également. Qui sont accessibles facilement. Et puis, si ceux et celles qui nous écoutent sont dans la région pyrénéenne de la Bagnère de Bigorre, tu as récemment commencé tes balades poétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet, s'il te plaît ?
Oui, les balades poétiques, ça s'est inventé de façon un peu par hasard, parce que depuis quelques années, quand je trouve des textes vraiment qui me touchent, tu vois, particulièrement fort, je les apprends par cœur. Et du coup, quand j'ai fait mes sorties nature, dans le cadre des fêtes de la nature, dans mon ancien village, à Saint-Vincent-de-Barbérac, à côté de Montpellier, je ponctuais un peu mes sorties avec, de temps en temps, un petit poème, comme ça. Et puis, j'ai vu que les gens appréciaient ça, quoi. Et puis là, le Vallon du Salut, à Bagnères-de-Bigorre, c'est un endroit très, très beau et vraiment tout près du centre-ville. Mm-hmm. Et du coup, c'est très, très adapté. Et donc, je dis des poèmes de La Fontaine, de Rimbaud, de Pessoa, Emily Dickinson, Gérard de Nerval.
Wow. Voilà,
et voilà, et c'est... en même temps, écouter le chant des citelles, en même temps, observer les chevennes dans le ruisseau. Et tu vois, à un moment, on a trouvé des cerfs, là, il n'y a pas... tu vois, c'est incroyable, hein. On a vu les cerfs, il y avait peut-être 2 ou 3 cerfs, 4 ou 5 biches. Et puis, un quart d'heure plus tard, on était à notre point de départ, plus près du centre-ville.
C'est super.
C'est des moments magnifiques et très riches. On a vu l'accouplement des crapauds, on a vu le jet en train de se baigner dans le ruisseau, tu vois. Et en même temps, de temps en temps, un poème. Et c'est des moments, ça dure 1h30, 2h, tu vois. Et
d'accord.
C'est vraiment très sympa, quoi. Donc, je vais continuer.
Bah oui, ils viennent illustrer tes mots. Et voilà, la nature t'accompagne pour donner des couleurs... à ces beaux mots.
Exactement.
Et pour te contacter, comment on fait alors, comment on fait pour, si on veut réserver une balade, est-ce que comment on peut faire?
Moi, je publie à chaque fois sur Facebook, je le publie.
Ok.
Sur mon Twitter aussi, Twitter et Facebook, je le publie.
D'accord.
Et voilà, et je fais savoir comme ça. Après, je fais un tout petit flyer que je donne à gauche, à droite, pendant le marché de Bagnères ou ailleurs.
Ah, super.
Mais, et après, j'ai une petite, j'ai eu aussi une liste de diffusion email et voilà, si les gens m'envoient leur adresse email, bah, je le mets sur ma liste et puis
super.
Ils sont informés.
D'accord, voilà. Bon, bah, c'est bon à savoir.
Je change les heures et les jours, tu vois, je change les heures et les jours pour que tout le monde puisse en profiter.
D'accord, voilà. Bon, c'est super. Roland, la dernière question du podcast que je pose à tous mes invités, c'est quelle est la signification pour toi, de nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc, le podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Donc, pour toi, comment ça résonne avant qu'on se quitte?
Ben, tu vois, ça me renvoie tout de suite à la question du long terme. Mm-hmm. La nouvelle conscience, c'est la responsabilité.
D'accord.
C'est de se rendre compte que... c'est l'heure de marquer un arrêt, de s'interroger sur ce qu'on a fait, nous les humains, là, pendant ces quelques milliers d'années, et puis de se dire, on est mal parti, donc on fait un arrêt et on essaie de voir ce qu'on pourrait faire pour changer de cap et, et rectifier le tir, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est ça pour moi que ça dit nouvelle conscience. Et, et avec beaucoup la dimension de la sensibilité, c'est-à-dire que on a fait fi quelque part de la sensibilité, hein, quand on voit les expérimentations animales ou quand on voit l'élevage... l'élevage concentrationnaire, on voit bien que c'est trop violent tout ça, que c'est pas acceptable, quoi.
Oui.
Et du coup, je pense que il faut maintenant que cette sensibilité qu'on peut avoir, elle trouve droit de cité, quoi. Tu vois, qu'on soit plus à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de nos sensations, à l'écoute de, en augmentant notre réponse au monde, en éprouvant les choses et pas seulement en les pensant, tu vois.
Oui, je vois. Oui.
Voilà, c'est un peu ça.
D'accord.
Et puis après, ça débouche sur un engagement parce que c'est normal pour un être humain d'être engagé, d'exprimer ses convictions dans un effort collectif, tu vois.
Oui. Oui, je vois. Donc c'est de passer de l'idéal à l'action. Concrétiser ce qu'on veut voir fleurir.
Oui, absolument.
Ok,
c'est ça.
Super. Bon, bah, merci beaucoup, Roland.
Merci à toi, Manon.
Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt !